Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite de trouver avec moi encore Ésaïe chapitre 7. Et nous allons parler de ce signe que Dieu donne dans ce chapitre. Nous allons commencer d'abord par le premier verset. Et il faut savoir qu'en lisant ce chapitre, nous reculons de près de 3000 ans. Et nous trouvons en plein milieu d'une histoire qui est vraie et qui concerne une petite nation qui s'appelle Juda. Et le thème de ce passage, c'est que il y a le plus grand des saluts, mais la plus inattendue des sources. Et quand nous commençons à lire ce chapitre, nous nous trouvons tout de suite face à une crise sans espoir. C'est ça le premier point que je veux souligner. Il y a une crise sans espoir. On nous dit que nous sommes actuellement dans un état d'urgence. Alors, je ne sais pas si vous le sentez vous-même, mais c'était certainement le cas lors de Ésaïe chapitre 7, lorsqu'Ésaïe chapitre 7 a été écrit. Et pour apprécier un peu la crise politique de l'époque, il faut se rappeler, comme je viens de dire, qu'Israël est une, et Israël et Juda, qui sont maintenant deux nations en fait, étaient une toute petite nation, et qu'elle donc ne pouvait pas s'isoler de ce qui se passait autour d'elle, c'est-à-dire ce qui se passait autour d'elle dans les nations aux alentours, avait un très grand impact sur cette petite nation, ce petit pays. Et vous savez que Israël a connu le zénith, on va dire, de sa grandeur sous les règnes de David et puis de son fils Salomon. Mais quand on prend toute l'histoire d'Israël, cela ne représente en fait qu'une petite partie de leur histoire. Tout le reste, que ce soit avant ou que ce soit après ces deux hommes, Israël est dans une situation de faiblesse, souvent, par rapport aux autres pays autour d'elle. Et quand nous ouvrons Ésaïe chapitre 7, nous nous trouvons au 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes à près de 300 ans après David, et les choses vont de mal en pis. Et Israël est depuis longtemps divisé maintenant en deux nations, c'est un peu comme, si vous voulez, la Corée du Nord et la Corée du Sud de nos jours, parce qu'ils étaient souvent des relations conflictuelles entre Israël et Juda, après leur séparation l'une de l'autre. Israël est au nord, vous savez peut-être, Juda, encore plus petit qu'Israël, est au sud, autour de la ville de Jérusalem. Et Juda, qui est le sujet de notre texte, a une longue histoire de se confier en d'autres nations. Quand vous regardez toute l'histoire, vous allez voir ce que ce petit pays a fait. Par exemple, au 9 siècle avant Jésus-Christ, quand Juda, au sud, est attaqué par Israël, le pays du nord, le roi de Juda, il va appeler à l'aide un autre pays qui s'appelle la Syrie. On parle encore de la Syrie. Et je vais vous lire 2 Chroniques, chapitre 16, versets 1 à 3. Écoutez ces paroles. La 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monte contre Juda. Donc il y a Israël qui veut attaquer Juda. Et il bâtit Rama, une autre ville, pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. En fait, il va construire une forteresse entre Jérusalem et la mer, pour empêcher que le roi, qui est à Jérusalem, le roi de Juda, puisse vraiment sortir par la mer. Il est maintenant un peu bloqué, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'Asa va faire? Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas, et lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi. Ce que le roi de Juda fait, c'est de faire appel à le pays de Syrie. Et à cause de cela, il a été sévèrement reproché par un prophète de Dieu. Dans le même chapitre, il nous est dit que dans ce temps-là, Anani, un voyant ou un prophète, alla auprès d'Azar, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée de Syrie s'est échappée de tes mains. » En fait, ce que Dieu lui dit, c'est que puisque tu t'es appuyé sur Syrie, la Syrie va devenir pour toi une menace. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et là où nous nous trouvons en Ésaïe chapitre 7, Syrie est maintenant, elle n'est pas l'aide, elle est devenue la menace. En fait, c'est une alliance entre les rois d'Israël et de Syrie. Les deux se sont rejoints contre Juda. Et le roi n'est plus Azar, mais Akaz. On est 140 ans plus tard maintenant. Donc regardez le verset 1. Ésaïe chapitre 7, verset 1. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétsin, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Remalia, roi d'Israël, donc il y a les deux rois, hein, les rois d'Israël et le roi de Syrie, pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Donc vous voyez, c'est une alliance entre Syrie et Israël au nord qui menace maintenant Juda. Et on vint dire, verset 2, à la maison de David, les Syriens campaient en Éphraïm et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Vous sentez la crise qui est là? Il dit le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Tout le monde a peur. Est-ce que vous n'avez jamais eu votre cœur agité comme les arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent? Et la menace est décrite dans les versets 5 et 6. Donc je vous invite à sauter, regardez le verset 5. Ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm, voici un autre nom pour les 10 tribus du Nord, hein, ou Israël, et le fils de Remalia disent, et voici leur plan, c'est au verset 6. Montons contre Juda, assiégeant la ville, donc ce serait la ville de Jérusalem, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Alors, leur désir, on le voit, c'est clair, c'est d'attaquer Jérusalem, tuer le roi Akaz, et proclamer comme nouveau roi celui qui est appelé ici le fils de Tabéel. Et c'est donc la lignée de David qui est en danger. C'est cette association avec la lignée de David que, je vous rappelle, est la lignée d'où doit venir le Messie, qui est souligné au verset 2, on va dire à la maison de David. Et encore, si vous regardez le verset 13, où Ésaïe dit, écoutez donc, maison de David. Voilà, c'est l'accent est sur le fait que c'est la lignée de David, ici, qui est en danger. Et la nouvelle que les espions venant du nord apportent est celle-ci. Regardez le verset 2 encore. Les Syriens ont établi leur camp sur le territoire d'Éphraïm, c'est-à-dire l'armée syrienne, donc qui vient de plus loin, est déjà en marche, elle est actuellement installée, donc déjà sur le territoire d'Éphraïm, qui est attenant au territoire de Juda, c'est-à-dire que l'armée est tout proche. Et elle va se rejoindre maintenant à l'armée d'Israël. Nous avons donc maintenant une double armée. Et le danger est donc très proche. Ça, c'est l'état d'urgence. Ça, c'est la situation de crise. Sans espoir humain. Et c'est dans ce contexte que l'Éternel va parler au travers de son prophète Ésaïe. On ne demande pas que l'Éternel parle, mais il parle, il choisit de parler. Regardez le verset 3. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz. Il faut savoir que Akaz n'est jamais venu à l'Éternel. C'est l'Éternel qui envoie son messager à Akaz. Toi et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Donc il va intercepter, si vous voulez, le roi qui sera là pour certainement pour vérifier les travaux en cours pour essayer de protéger la ville. Et dis-lui, verset 4, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant. Alors, ces deux nations qui avaient l'air d'être des torches enflammées, Dieu dit, ce sont que deux bouts de bois fumant. C'est-à-dire, il y a même plus la flamme, il y a que la fumée qui monte. La flamme est déjà éteinte. Il dit, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Remalia, verset 5, de ce que la Syrie médite du mal contre toi et qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeant la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Ritsan est la tête de Damas. Et encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Alors on s'arrête là pour un moment. Vous voyez, la promesse est sûre. Ces deux pays ne vont même pas subsister. Mais Ésaïe termine avec un avertissement. Dans une autre traduction à la fin du verset 9, il est traduit ainsi. Vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Mais ce n'est pas la fin de la conversation, parce que l'Éternel va parler encore et va forcer une réponse de la part de ce roi. Il va un peu le forcer à parler. Regardez le verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, c'est-à-dire demande le signe, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Alors l'Éternel, il offre un signe à ce roi, et il est très sincère dans son offre. Il y a quelques années plus tard, pour le fils d'Akaz, qui s'appelle Ézéchias, Dieu va faire un miracle époustouflant. Ézéchias avait dans la cour de son palais un escalier, qui s'appelait en l'occurrence les marches d'Akaz, hein, d'après son père. Et l'Éternel a fait remonter de 10 marches l'ombre qui les avait couverts. Donc il fait reculer en fait l'ombre du soleil pour son fils. Ça c'est un signe miraculeux, il fait pour son fils et offre à son père aussi un signe. Mais notez la réponse d'Akaz à cette offre de la part de l'Éternel. Et c'est ici où nous voyons la deuxième chose. Nous avons vu cette crise dans laquelle le pays se trouve, mais là nous voyons dans le roi un cœur sans foi. Regardez ce qu'il dit au prophète, c'est Ésaïe 7 et verset 12. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Alors, je ne sais pas votre réaction en lisant ces versets. Ces paroles, mais au premier abord, ça semble être une réponse très humble et pieuse, n'est-ce pas? Mais en fait, c'était tout le contraire. Et nous le voyons par la réponse que l'Éternel donne par la bouche d'Ésaïe. Regardez la réponse d'Ésaïe au verset 13. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Dieu le prend pour insulte que ce roi est en train de lasser la patience de Dieu. Ésaïe dit, moi j'ai plus de patience pour toi, et maintenant tu veux le faire de même pour Dieu? Alors nous on n'entend pas la voix, hein, et la sonorité de la voix, mais nous savons que Akaz était un des pires rois de Juda. Regardez ces versets en 2 Rois 16, qui parle de la vie d'Akaz. Il dit, Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous voyez, c'est un roi qui s'est vraiment donné, qui s'est adonné même au mal et qui a voulu faire comme les pays autour de lui. Que ce soit Israël ou plus tard, il va faire comme le roi d'Assyrie. Donc si, au verset 12, Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel, nous savons que ce n'est pas par humilité, mais parce que son cœur n'a pas de place pour la foi. Et ce que nous savons, en fait, c'est que Akaz a d'autres plans. Lui, il a d'autres idées. Il a déjà son idée de comment il va gérer la situation, il n'a pas besoin de Dieu, même un signe de Dieu. Et comme, vous rappelez, Asa a fait appel à la Syrie pour protéger Israël, Akaz va faire appel à la Syrie. Donc, il y a la Syrie et puis il y a la Syrie. Il faut distinguer les deux. Pour le protéger d'Israël et de Syrie. Ceci nous est raconté en 2 Rois chapitre 16. Écoutez ces mots de la Bible. Akaz envoya, donc voici ce qui se passe, ce qu'il fait. Il envoya des messagers à un homme qui s'appelle Tiglath-Pileser, c'est le roi d'Assyrie, pour lui dire, « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël. » Vous voyez, c'est une prière. Il y a d'autres lieux où on voit presque ces mêmes paroles adressées à Dieu, hein, où il dit, je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie, de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. Et ce n'est pas simplement une demande, il va payer aussi, verset 8. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Alors vous voyez comment Akaz est malin. Il n'a pas besoin de Dieu. Pour lui, il va nous dire, hein, il faut être réaliste. Il faut savoir faire la politique. Il faut faire des plus forts ses amis. Ça c'est un peu la philosophie d'Akaz. Et dans cette vision des choses, il n'y a pas de place pour l'Éternel. Un signe de la part de l'Éternel n'est même pas désiré. Il veut même pas en parler. Il est là, sur la route, il a des choses à faire, il veut avancer, il veut rouler, il a des préparatifs à faire, il a des messagers à envoyer, mais à un roi qui se trouve en Assyrie. Il cherche son secours en Assyrie. Et de plus, ses machinations semblent marcher. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse de Dieu à Akaz est presque la même que la réponse de Dieu était à Asa 150 ans auparavant, en parlant de la nation de Syrie. Dieu lui dit, si tu fais de la Syrie ton secours, tu verras qu'elle deviendra pour toi une menace. Et j'ajoute ici que c'est exactement ce qui s'est passé. Effectivement, la Syrie est venue, elle a battu la Syrie. Elle a éliminé Israël. Mais après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tournée sur Juda. Elle a détruit plusieurs des villes de Juda. C'est des batailles qui sont écrites sur des pierres appartenant à la Syrie, qu'on peut trouver encore de nos jours dans les musées à Londres, par exemple. Et pendant le règne de son fils Ézéchias, le fils d'Akaz qui s'appelle Ézéchias, la Syrie est venue jusqu'aux portes de la ville. Vous vous rappelez de cette histoire, ça se fait raconter plus tard en Ésaïe chapitre 37. Et Ézéchias, qui est plutôt un bon roi, il fait pas comme son père, il crie à l'Éternel, il prend la lettre qui vient du roi, il l'ouvre devant l'Éternel, et l'Éternel lui vient en secours, et l'ange de l'Éternel tue 185 000 soldats assyriens. C'est raconté en Ésaïe 37, verset 36. Donc, Ézéchias, va faire beaucoup mieux que son père Akaz a fait, mais sa foi n'est pas parfaite. Et vous rappelez peut-être qu'il se confie dans des ambassadeurs qui viennent d'une ville très lointaine, encore plus lointaine, qui s'appelle quoi? Qui s'appelle, vous rappelez? Qui s'appelle Babylone. Et il leur montre tout son trésor, parce que certainement il avait dans la tête, il faut qu'ils voient que je suis quand même un roi puissant, pour qu'ils veulent que je sois un allié avec eux. Parce que Babylone est maintenant la force qui grandisse dans le monde. Et Dieu vient dire à Ézéchias, par le même prophète en fait, c'est encore le roi Isaïe qui est maintenant très vieux, puisque tu as fait confiance en Babylone, tu verras qu'elle deviendra la ruine de Jérusalem. Vous pouvez lire cette histoire, c'est en Ésaïe 37 et 38, et bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est Babylone qui viendra plus tard et qui va détruire Jérusalem. Alors, je crois qu'il y a une leçon à prendre au début de cette année. Vous avez vu là comment Dieu agit? Chaque fois que le peuple de Dieu fait d'une nation, ou d'un roi, d'une personne, son espoir de salut, hein, il dit, viens me sauver, Dieu tourne ce salut présumé en menace. Il l'a fait avec la Syrie, il l'a fait avec la Syrie, et il l'a fait avec Babylone. Et il fait de même. Si nous avons nos yeux braqués sur un salut, c'est ça, c'est cette personne qui va me donner la joie, ou c'est cet argent, ou ce diplôme, Dieu peut changer cette personne ou cette chose en menace. Parce que Dieu n'accepte pas qu'il y ait plus qu'un seul sauveur dans nos vies. Et nous voyons qu'Akaz, pour revenir donc au roi Akaz, il avait au moins deux problèmes dans sa pensée, selon ce texte. Et le premier, c'est qu'il pensait que le seul domaine qui comptait était le domaine humain. C'est-à-dire, il vit dans un domaine purement humain. Et il n'a pas de place même pour Dieu dans ses pensées. Lui, il pense armée, roi, politique, sécurité. Et il n'a même pas le temps de demander un signe à Dieu. Il est tellement pris par ses pensées humaines. Et pour Akaz, le grand problème, c'est que l'homme est contre nous. C'est ça qu'il a en tête. Israël, Syrie sont contre nous. Ça, c'est mon problème. J'ai peur parce que l'homme est contre nous. Qu'est-ce qui les fait peur? Vous voyez ça? Pour revenir au verset 2, on va dire à la maison de David, les Syriens campent à Ephraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. On est souvent démasqué par ce qui nous fait peur. C'est ça qui démasque, en fait, où est notre confiance. On l'enlève, on a peur, ça démontre que c'était notre source de confiance et de joie. Et dans le domaine humain, quand ce domaine est chamboulé, ben, il ne vous reste plus d'espoir, parce que tout l'espoir que vous avez était placé dans cette chose ou cette personne. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qui nous fait peur? Et notez ce que Dieu dit pour dans cette idée de ce domaine humain. Regardez le verset 9, là au milieu du verset 9. Il dit, ou à la fin plutôt, il dit, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Ça, c'est le problème. Akaz pense, c'est le roi d'Israël, c'est le roi de la Syrie. Dieu dit, si tu ne crois pas en moi, tu ne subsisteras pas. C'est, en fait, en hébreu, c'est un jeu de mots. On pourrait le traduire ainsi, vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. Mais pour Akaz, cela n'a pas de sens. Je ne vais pas subsister si je n'ai pas la foi en Dieu. Pour lui, pour tenir bon, il faut faire confiance au Seigneur. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que pour lui, le seul domaine qui compte est le domaine humain. Et Dieu l'avertit en disant, attention, c'est moi le danger en fait. C'est moi qui est pour toi la menace. Si tu viens pas vers moi pour faire confiance en moi, je serai ta ruine. Si tu n'as pas foi en moi, tu vas pas subsister. Pourquoi? Parce que c'est moi qui va te détruire. Et ailleurs, il nous est dit que le Seigneur a envoyé Syrie contre Juda. Il le dit clairement dans en Deux Rois. C'est le Seigneur qui envoie Syrie contre Juda. Donc c'est Dieu qui est la menace. Mais Akaz ne pense pas à Dieu. Pour lui, le grand problème, l'homme contre nous. Alors si ça c'est le grand problème, quelle est la solution? Si le problème c'est l'homme contre nous, la seule solution c'est quoi? Il faut un homme qui soit pour nous. La seule solution c'est l'homme avec nous, si vous voulez. Sa devise, il faut bien choisir ses amis. Il faut un homme avec nous. Et donc il ne se tourne pas vers Dieu, mais vers l'homme, il va au roi de la Syrie. Mais nous voyons ici dans ce texte qu'Akaz avait un deuxième problème. Non seulement est-ce qu'il vivait seulement sur ce domaine humain, il avait besoin d'un homme avec lui, mais nous voyons aussi qu'Akaz pensait que la seule force qui peut agir est une force humaine. C'est-à-dire, il n'a pas seulement pas de place pour Dieu, parce que sa vie est limitée au domaine terrestre et humain, mais même dans ce domaine, ce qui compte est la force humaine. Il me faut quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort. Et cet homme, je pourrais l'acheter avec mon or et l'or du temple. C'est la force de l'argent et la force des armées qui occupent ses pensées. Mais notez comment Dieu parle de ces pays. C'est ironique. Dieu se moque un peu d'eux. Regardez le verset 8, Ésaïe 7, verset 8. Il dit, car Damas est la tête de la Syrie, et Rétsin est la tête de Damas. Pour Akaz, le grand problème est ce roi Rétsin. Et je pense que le sens du verset 8 est bien communiqué dans la traduction du Parole de vie, où il dit, Damas est la capitale de Syrie, et Rétsin n'est chef qu'à Damas. C'est-à-dire, la Syrie, elle a une capitale. C'est vrai, cet homme Rétsin, il échappe, mais il échappe dans une seule ville qui est au-dessus d'un seul pays. C'est comme si Dieu disait, bon, relativisons un peu les choses, tu as peur de Rétsin, mais sache qu'il n'est roi que sur une seule capitale et un seul pays, qui d'ailleurs ne va pas durer longtemps. Et puis notez ce qu'il dit de l'autre menace, c'est le verset 9. Il dit, la Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia, il est la tête de Samarie. C'est-à-dire, il n'échappe qu'à Samarie, lui. Mais vous voyez comment il appelle le roi. Il n'utilise pas son nom, il dit qu'il est le fils de Remalia. Alors, il faut savoir qu'une façon de dénigrer quelqu'un à l'époque était de ne pas utiliser son nom, mais le nom de son père. Surtout si son père était quelqu'un sans importance. Donc, d'être le fils de David, ça c'est quand même important. Mais Saül, à l'époque, faisait cela avec David. Il ne l'appelait pas David, mais il l'appelait le fils d'Isaïe. Parce qu'Isaïe, c'était un paysan. C'est comme s'il disait, mais c'est où ce fils de paysan? Et c'est Dieu qui fait la même chose avec Péka, qui ne venait pas d'une famille royale, mais qui a pris le trône par un coup d'État. Son père n'était pas roi. Son père était paysan, ou autre chose, on ne sait pas. Et Dieu dit, bon, Samarie est la capitale d'Éphraïm, et c'est le fils, j'oublie même son nom, mais le fils de ce paysan, il n'est que chef qu'à Samarie. Vous voyez, pour Dieu, les hommes, même les plus forts, ne valent rien quant à leur force. Pour Dieu, leur force ne l'impressionne pas. C'est un fils de paysan. Mais pour Akaz, la seule force qui peut agir est une force humaine. Et c'est pour cela qu'il se tourne donc vers un autre roi. Hein, de Rois 16, 7, Akaz envoyait des messagers à Tiglath-Pileser. Voici son sauveur. Tiglath-Pileser avec nous. C'est ça la réponse. Le roi d'Assyrie pour lui dire, je suis ton serviteur et ton fils, monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie, de la main du roi d'Israël. Mais notons ce que dit l'Éternel dans ce passage. Donc, après la situation de crise, et après le cœur sans foi qu'avait Akaz, nous voyons que Dieu parle et il donne un signe sans égal. C'est ça qui est très beau. Regardez les versets 13 et 14. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Ésaïe ne peut plus dire ton Dieu, comme il a dit auparavant dans le chapitre. Il parle maintenant de mon Dieu. Ils se distinguent comme s'ils avaient différents dieux. Mais notez ce que le Dieu d'Ésaïe lui dit. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alors, ce qu'on trouve dans ce signe, c'est que c'est un affront direct à l'incrédulité, ou si vous voulez, à l'athéisme d'Akaz. Alors, vous rappelez que Akaz pensait que le seul domaine qui compte, c'est le domaine humain. Et il pensait que la seule force qui compte est une force humaine. Et Dieu dit, bon, puisque tu penses que la seule force qui peut agir est une force humaine, je t'ai offert un signe, hein, c'est ça au verset 11, demande en ta faveur un signe dans les lieux bas ou dans les lieux élevés, mais tu n'as pas voulu de signe, alors moi je vais te donner un signe. Et ce signe va venir d'une vierge. Vous voyez ça, le verset 14? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et là, on est bouleversé par la source de ce signe. Il dit, regarde la Vierge. Regarde la jeune fille. Toi, tu as les yeux braqués sur un roi, sur des armées, sur ton or, sur ton argent. Voici le signe que j'ai pour toi. Regarde la jeune fille. Tu as peur d'un roi à Damas, d'un autre à Samarie, tu te tournes donc vers un troisième roi, mais moi je te dis, regarde la Vierge, regarde la jeune fille. Et c'est une façon de le traduire. Nous voyons que ce signe que Dieu donne prend pour source la plus faible des forces humaines. C'est intéressant, hein, ce que Dieu utilise quand il choisit lui-même le signe. Il a choisi une très jeune fille, une adolescente. Si Dieu ici disait, bon, je veux pas des vieillards, je veux pas des forts, des hommes forts, je veux pas des anciens ou des pasteurs, moi je vais prendre une adolescente. Une fille de 13, 14, 15 ans. Ah, elle marcherait bien comme signe. Quand Dieu choisit le signe, il ne se sert pas d'un roi, ni d'une reine. Il ne veut pas d'un jeune homme plein de force. Dieu choisit une jeune fille. Et écoutez les paroles de cette jeune fille, cette adolescente Marie, racontée en Luc 1, 46 à 48. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur quoi? La bassesse de sa servante. La bassesse, la petitesse. Dieu jette les yeux sur la petitesse du monde et le prend pour signe. N'est-ce pas merveilleux que le plus grand des signes miraculeux, en fait. Très important pour le christianisme. La naissance d'une vierge, mais c'est quand même, Dieu s'est servi d'une jeune adolescente. Et c'est la façon que Dieu agit toujours. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. Ça c'est donc cette adolescente de Nazareth. Qui aurait pensé à elle? Mais il le fait pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alors nous avons Akkad qui pense au roi, qui pense aux armées, qui pense à l'or, à l'argent, et Dieu lui dit, regarde la jeune fille vierge, c'est d'elle que viendra le signe de l'Éternel. Si tu ne regardes pas, tu ne le verras pas. Nous voyons que le signe prend pour source la plus faible des forces humaines. Mais notez ce que Dieu va faire avec cette jeune fille, qui n'a même pas encore de mari. Hein, revenons à Ésaïe 7 et regardez le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, et voici la Vierge. Ok, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec cette Vierge? La Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de quoi? Le nom d'Emmanuel. Alors Dieu ne dit pas quand ce signe apparaîtra. Hein, tout ce qu'il dit à Akaz est qu'avant que ce signe puisse se réaliser, il exprime en disant qu'avant que l'enfant ait l'âge où il pourra distinguer entre les choses qui diffèrent, si vous regardez la fin du verset 16, il dit « Avant même que cet enfant puisse grandir, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Dieu dit en effet « Je donne un signe à la maison de David, mais puisque toi tu n'as pas cru, je m'occuperai de toi et de ces rois, même avant la réalisation de ce signe. » Et si vous regardez bien, le signe n'est pas pour Akaz, en fait, mais plus pour la maison de David tout entière. Regardez le verset 10. L'Éternel parle de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta, et notez le singulier, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. » Il parle au singulier, il parle au roi. Mais regardez maintenant le verset 13. Ésaïe dit alors, écoutez, c'est pas un vous de politesse, pluriel de politesse, c'est un pluriel. Nous sommes dans le pluriel, pas écoute, mais écoutez donc, maison de David. Regardez le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, vous, encore le pluriel, vous donnera un signe. Donc le signe est pour toute la maison de David. Mais si vous regardez au verset 16, il dit, avant même que ce fils puisse grandir, le pays dont tu, et revient au singulier, dont tu crains les deux rois sera abandonné. Donc le signe que je vais donner est pour toute la maison de David. Mais avant même que ce signe puisse se réaliser, je vais m'occuper de toi, Akaz. Mais revenons à ce signe et surtout au nom qu'aura le fils de la Vierge. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et c'est ainsi que je vous invite à trouver Matthieu 1. Hein, pour terminer le message, parce que vous savez que ce verset est cité en Matthieu chapitre 1, dans l'histoire de la naissance de Jésus le Christ. Et en Matthieu, donc le premier des livres de cette nouvelle alliance, nous ouvrons le Nouveau Testament sur cette histoire, et nous lisons verset 22, Matthieu 1, 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, et nous savons alors que c'est le prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'il a annoncé, verset 23, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Mais Matthieu continue parce qu'il veut souligner quelque chose. Et notez bien qu'il souligne la signification de ce nom, de peur qu'on va le manquer, qu'on va le rater. L'importance se trouve en fait dans le sens qu'a ce nom Emmanuel. Et donc il nous dit, verset 23, ce qui signifie quoi? Dieu avec nous. Quelle était la devise d'Akaz? J'ai besoin d'un homme avec moi. J'ai besoin du roi d'Assyrie. J'ai besoin de la puissance. Et Dieu prend une vierge, il prend une jeune fille. Mais qu'est-ce qui ressort de ce signe? C'est que c'est Dieu avec nous. Nous voyons que le signe, non seulement est-ce qu'il prend pour source la plus faible des forces humaines, mais il unit ces domaines humains et divins. Le signe nous apporte, qui vient de la plus faible des sources, hein, mais il nous apporte la plus grande des forces possibles. Dieu avec nous. Si seulement Akaz aurait demandé à Dieu d'être avec lui. Et ça, c'est le message de Noël, n'est-ce pas? Dieu, par le biais d'une jeune fille vierge, s'est approché de nous. La plus grande des puissances divines, Dieu lui-même, est venu par la plus faible des forces humaines, une jeune adolescente. Dieu, par une jeune adolescente. Il a quitté la cité céleste pour naître dans la plus petite ville de Juda, le petit village même de Bethléem. Bethléem, Dieu est venu, mais à sa manière. À sa manière. Et lisons la suite juste après qu'il dit Dieu avec nous, c'est le verset 24, donc Matthieu 1, 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Puis, continuez la lecture au chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivent où? À Jérusalem. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils viennent tout naturellement à la capitale pour parler avec le roi. Et ils ne réalisent pas qu'il fallait aller au village pour parler avec la jeune fille. Vous voyez, ça c'est la pensée humaine. Il faut aller à la capitale, il faut parler avec le roi. Dieu dit non, non, non. Il faut trouver une jeune fille dans le village. C'est là où je suis venu. Il y a une crise sans espoir dans ce passage, il y a un cœur sans foi, mais de cela sort un signe sans égal. Et donc par application, pour terminer, on peut se demander s'il y a des acases parmi nous. S'il y a des personnes qui pensent que le seul domaine qui compte est le domaine humain. Vous vous apprêtez à vivre 2016 sans penser à Dieu. Mais Dieu vous dit ce qu'il a dit à Akaz. Vous ne pourrez tenir bon en 2016 qu'en vous tenant au Seigneur. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne subsisterez pas. Votre plus grand danger est Dieu lui-même, si vous le rejetez. Et peut-être vous pensez aussi que la seule force qui peut agir est la force humaine, et donc vous cherchez le salut dans la force de l'argent, ou dans la force des amis, ou dans la force de votre savoir-faire, vous essayez d'acheter même des amis comme a fait ce roi. Et Dieu vous dit, non, tournez pas vers ces personnes, mais tournez vers la jeune fille vierge. Tournez vers le fils de la jeune fille vierge. Car c'est de lui, Jésus, et lui seul, que vient le salut. Actes chapitre 4 et verset 12 le dit très clairement. Il n'y a de salut en aucun autre. C'était vrai pour Akaz, mais c'est aussi vrai pour nous. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Dieu nous aide à tourner vers ce seul salut, Jésus-Christ.